7h50. Vous êtes à Boulevard 102.1, Rage Against le matin. Bon jeudi matin ensoleillé. Et justement, comme un rayon de soleil hey, en
dis,
studio,
toi?
Habillé tout en jaune, notre chroniqueuse politique, Jacinthe Varelle.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien. Avec le soleil, là, ça va bien, bien, bien.
T'as pris du soleil, t'as de l'air d'un soleil aussi avec ton petit veston comme ça. Bien content de te voir, Jacinthe.
Ben moi aussi, je suis content de te voir.
Hier, c'était une première pour notre premier ministre Mark Carney, rentré parlementaire, baptême de feu à la Chambre des communes. Gars, je te lance comme ça. Comment t'as trouvé sa performance hier, là?
Fidèle à l'homme qu'on a vu en campagne électorale, il y en a qui l'ont trouvé baveux, mais si on l'a suivi assidûment durant la campagne électorale, on voyait bien qu'il avait le tempérament qui brûlant ou qui s'enflamme rapidement, ne serait-ce que par son irritation parfois face à certaines questions des journalistes, on voyait qu'il pouvait être agacé et quand il était agacé, il pouvait être expéditif, baveux même. Et hier, ben, c'est le même homme qu'on a vu, qui a sorti les mêmes cassettes aussi, les mêmes formules creuses. On a un plan. Donc, en ce sens, il s'inscrit dans la même lignée que Justin Trudeau. Justin Trudeau utilisait les formules comme « nous allons continuer de travailler pour les Canadiens et les Canadiens ». Lui, c'était « on a un plan, vous allez voir, on a un plan ». Mais on reste dans les formules creuses, les formules quand même faciles et peu engageantes.
Tu parlais un peu baveux. Ça réplique avec François Blanchette était bonne, par exemple.
Oui, oui.
Sur le discours du trône, là.
Absolument, oui, oui. C'est ça, mais c'est aussi justement, il y a le sens de la réplique facile et puis de dire à Yves-François Blanchet qu'encore faut-il être présent au discours du trône. C'était bien, bien envoyé.
Tu parles, on a un plan, puis moi aussi, ça me tanne, honnêtement. Ben, j'aimerais ça le voir, le plan.
Ouais.
Il va-tu réussir à s'en sauver? Il n'y a rien qui... Il n'y a rien présentement qui lui touche, qui l'atteint. Là, il ne présentera pas de budget, mais il prône pour des baisses d'impôts rapides,
ouais.
Le retrait de la TPS sur les premiers achats de maison. Il va-tu s'en sauver avec ça, de la polémique autour du budget?
Bien, Pierre Poilievre a dit, même s'il n'était pas présent à la Chambre des communes hier, avant-hier, donc la veille du lancement des travaux à la Chambre des communes, Pierre Poilievre, le chef du Parti conservateur, disait qu'il n'allait pas lâcher et que le mouvement conservateur, le Parti conservateur, allait talonner Mark Carney tout au long du mois de juin pour s'assurer qu'il présente un budget, un énoncé économique, mais quelque chose qui démontre un peu où il s'en va avec ses chiffres. Mais même s'il se fait talonner, moi, j'ai l'impression, on voit déjà que c'est un homme teflon, Mark Carney. Il sait où il s'en va, il est ratoureux, il a ses stratégies qu'il ne présente pas et il dévoile ce qu'il veut bien dévoiler. Alors, j'ai l'impression que même s'il se fait marteler tout au long du mois de juin qu'il doit présenter des chiffres, je serais très surprise qu'il les présente.
Jacinthe, question, en tout cas, c'est ce qu'on dit, de se distancier un peu de Justin Trudeau. On a changé une tradition du mercredi.
Ouais.
Pas prendre toutes les questions
ouais.
qui sont lancées au premier ministre, strictement les questions qui viennent des chefs. C'est-tu vraiment pour couper les liens avec Justin Trudeau ou peut-être parce que c'est pas un politicien de carrière, peut-être pour tranquillement faire ses cordes dans le Parlement?
Bien, j'ai entendu plusieurs de mes collègues dire « Ah, ben c'est bien, il fait de la place à son équipe, ça sera pas juste un one-man show. » Bon, c'est sûr que quand on est vendu d'avance à Mark Carney, on trouve ces belles vertus-là, alors ben oui, il va laisser de la place à son équipe, mais il reste que cette tradition que Justin Trudeau avait implantée, c'est-à-dire de répondre à toutes les questions les mercredis, c'était se montrer accessible. Moi, je trouvais que c'était un exercice de transparence ou du moins de tentative ou de démonstration de transparence parce qu'encore faut-il répondre aux questions.
Oui, c'est
là.
Sûr. Faut être transparent.
Je ne serais pas naïve au point de dire qu'on avait toute l'information.
Non, parce que quand tu répètes une cassette tout le mercredi, ça ne donne rien quand
absolument,
même.
Absolument, absolument. Mais il reste que je trouve qu'il vient d'installer une distance et il vient de se replacer là où on percevait qu'il était ou qu'il avait envie d'être, c'est-à-dire dans une élite détachée du peuple, détachée aussi des fondamentaux de la politique, c'est-à-dire répondre aux questions à la Chambre des communes, répondre à l'opposition. Alors, se cacher derrière l'excuse de faire de la place à son équipe, c'est bien vu. Quand on est déjà vendu libéral, bien, c'est parfait parce que là, on se dit « Ah ben oui, mais vois-tu, il fait de la place à son équipe, ça sera pas un one-man show ». Moi, je trouve que ça installe une distance qui n'était pas nécessaire et surtout, c'est de démontrer qu'il ne s'abaissera pas au niveau de répondre à toutes les questions de tous les députés. Il va s'en tenir seulement aux questions des chefs des partis. Alors, moi, je trouve que ça vient le replacer dans cette perspective que certains ont, dont je fais partie de lui, qui n'aime qu'à être identifié à l'élite mondiale, aux élites, aux postures plus grandes que les postures auxquelles nous, peuple, pouvons aspirer.
Je veux t'entendre en tant que stratège politique pour le Parti conservateur. Hier, j'ai encore entendu Pierre Paulus marteler, Mark Carney, Justin Trudeau, c'est la même équipe, c'est du pareil au même. Ça ne leur a pas permis d'être élu à la dernière campagne électorale. Faudrait-il qu'ils changent leur discours?
Ah oui. Oui. Oui, oui, là, va falloir...
Parfait, fait que là, t'as eu la même réaction que moi. Oui, quand j'ai entendu ça, j'ai fait... Ouais, là, on répète la cassette, là.
Oui, oui, là, de toute façon, ceux qui ont vu les ressemblances les ont vues. Ceux qui refusent de les voir...
Ils ont voté conservateur.
Oui, et ceux qui refusent de les voir vont toujours refuser de les voir. Et là, plus le temps passe, plus Justin Trudeau est loin derrière. On l'oublie. Mark Carney...
Ben, il a tenté de savoir avec ses souliers cette semaine, là. Mais oui, ça, c'est une autre histoire.
Oui, exactement. Mais non, il va falloir que le Parti conservateur se trouve des nouvelles lignes, se trouve des nouveaux angles d'attaque, renouvelle un peu son programme. C'est sûr que une campagne électorale, ça occupe tellement l'espace du temps des députés qu'ils n'ont peut-être pas eu l'occasion de faire vraiment un exercice de OK, où on s'en va dans cette stratégie-là, à cette ouverture de session parlementaire, mais ça va durer seulement le mois de juin. Espérons qu'ils vont prendre l'été pour vraiment revoir de fond en comble leur stratégie de communication.
Ouais. Encore une bonne stratégie que les conservateurs vont rappeler à la population que les libéraux volent leurs idées? Ça, c'est-tu bon de marteler ça?
Bon, moi, je trouve ça ordinaire. Okay. Je trouve ça ordinaire. Mais de toute façon, le concept de voler des idées, là, c'est-tu débile rien qu'un peu? Hein? On a tous des cerveaux, il y a 9 milliards d'humains sur la planète, alors il n'y a pas 9 milliards d'idées uniques et singulières. Alors à un moment donné, les idées se croisent, se recoupent. Donc d'accuser l'autre de copier son programme, c'est un peu... école primaire, école secondaire, je ne sais pas trop. Ça manque de hauteur, ça manque de complexité, ça manque d'originalité. Alors, encore une fois, il va falloir qu'ils sortent de ce discours-là, parce qu'effectivement, ah, là, vous avez copié nos idées. Encore une idée du Parti conservateur. Ça, c'est le travail aussi des journalistes. Mais peut-être aussi qu'il y a ce biais-là qui est difficile pour le Parti conservateur, mais c'est aux journalistes de sortir cette information-là, de dire « les libéraux reprennent des lignes des conservateurs ». Mais c'est sûr que quand les journalistes n'ont pas cette critique-là en l'endroit du Parti au pouvoir, puis qu'ils ont des passe-droits un peu plus pour le Parti au pouvoir, je pense que c'est un peu le cas, bien, il y a un piège pour le Parti conservateur de dire « bien, on va le nommer, nous, parce que de toute façon, ça ne sera pas nommé ». Mais laissez les journalistes faire leur travail, les journalistes, les critiques, les analystes, les commentateurs, les chroniqueurs vont s'occuper de dire « Encore, voyez-vous, c'est une idée du Parti conservateur. » Ça passe beaucoup mieux que d'accuser soi-même que nos idées sont copiées.
Oui, puis surtout, je me fais l'avocat du diable. On le voit de plus en plus dans les médias traditionnels. T'sais, une des grandes têtes d'affiche, Mario Dumont, martèle ce message-là, justement. C'est une de ses chroniques. C'est pas ce matin, c'était hier matin. Là, donc, on le voit et on le sent de plus en plus. Faut absolument qu'on te parle de ça clique, parce que ça clique pas pantoute. Comment tu prends toutes les informations qu'on reçoit à l'heure actuelle à la commission Gallet?
C'est surprise par-dessus surprise. Catastrophe par-dessus catastrophe. On a et on blâme encore beaucoup les ministres qui ont passé dans ce dossier-là, qui sont imputables, bien sûr. Mais il y a quelque chose, moi, qui m'achale depuis le début, c'est que n'oubliez pas que les sociétés d'État sont aussi régis par des conseils d'administration. Et un administrateur, un conseil d'administration, a des responsabilités légales.
Je suis tellement content de t'entendre dire ça.
Et ça fait quelques fois que je le dis, mais la lumière n'est pas assez mise sur leurs responsabilités légales aux administrateurs. Ils ont laissé passer des choses inquiétantes. Il y a eu un laxisme incroyable au conseil d'administration, et espérons que la commission d'enquête va permettre aussi d'identifier le manque de responsabilité, de vigilance, de rigueur au sein des conseils d'administration. Parce que quand on est nommé à un CA, là, c'est bien beau, là, on est administrateur au conseil d'administration. Je vous rappelle là, qu'à la Société d'assurance automobile du Québec, le président gagne 31 500 ou 800 $ par année pour siéger à ce...
Ouais, c'est pas bénévole,
non,
là, contrairement
bénévole.
À des conseils d'administration d'organismes communautaires.
Les administrateurs gagnent 20 000 par année, plus s'ils siègent à des comités, c'est un 4 à 6 000 $ qui s'ajoutent quand ils siègent à des comités. Alors, c'est des postes rémunérés. Ouais. Ils ont une imputabilité légale et ils sont choisis pour un CV, pour leurs compétences à gouverner. La gouvernance, bien, c'est ça. C'est de s'assurer que si on a un gros projet, notre gros projet, c'est un projet d'informatisation des systèmes, bien, même si on n'est pas informaticien, quand on est un conseil d'administration, on est imputable. Alors, surveiller le budget, on doit approuver les dépenses. C'est le comité de vérification qui s'en occupe, mais tout le monde est imputable. Là, plus on en découvre, plus je me dis, mais voyons, est-ce qu'ils avaient peur du politique, les membres du conseil d'administration? Est-ce que finalement, ils étaient là seulement pour faire confiance au président, puis go, on endosse? Est-ce qu'il y avait une collégialité à ce point au sein de...
Il était-tu là pour cacher des informations en faveur de la CAQ, justement?
C'est vraiment... ben oui, parce que ces conseils d'administration-là sont nommés...
Et là, on est en période de campagne électorale quand tout ça arrive. Il faut se poser des questions sur leur intégrité et leur éthique. Là.
Oui, oui, absolument. Puis ces gens-là, au bout de leur mandat, ben, espèrent souvent un renouvellement de leur mandat ou une renomination ailleurs. Donc, on peut avoir été sur le conseil d'administration d'une société d'État pendant X années. Et au bout de notre mandat, ben, on est soudainement promu président d'un autre conseil d'administration d'une autre société d'État. Alors, il y a ça là aussi de, ouais, de vouloir conserver la bonne lecture et la bonne étoile du gouvernement en place qui nous a nommés.
Est-ce que tu aimerais ça voir des... T'sais, on commence avec les vérifications, puis on check si... Mais si vraiment il y a quelqu'un qu'on se rend compte que, OK, il a vraiment été un méchant tout croche, t'aimerais-tu ça le voir avec les menottes au poignet puis qu'on ait peut-être de la présidée à ce point-là, mettons? Là?
Bien, il faut certainement qu'il y ait des poursuites qui soient encourues parce que c'est ce à quoi on s'expose quand on est administrateur sur un conseil d'administration et qu'on n'a pas bien fait notre travail. La gouvernance doit être examinée de fond en comble et s'il y a des accusations à porter, absolument. S'il y a eu des conflits d'intérêts dans la gestion des contrats, dans l'octroi des contrats, les gens qui ont fermé les yeux, qui n'ont pas rempli leurs responsabilités, bien, j'espère au moins qu'il y aura des accusations qui seront portés.
Et qu'est-ce que tu penses de l'idée ou de la demande plutôt du Parti libéral du Québec de mettre en tutelle la SAC?
Je suis embêtée. Okay. Je pense que l'idée est bonne. Est-ce qu'il faudra attendre les conclusions de la commission d'enquête avant d'en arriver là? Peut-être. Je suis embêtée là-dessus. Puis honnêtement, moi, ça me prend des fois pas mal de temps à me faire une opinion parce que je me dis, ouais, l'idée est bonne, c'est-tu trop facile, c'est-tu une solution trop facile, il y a quand même une commission d'enquête. Alors, je suis encore en train de me poser la question, mais j'examinerai franchement cette option-là, absolument. De dire, est-ce qu'on est rendu à mettre sous tutelle? De toute façon, oui, on aura des conclusions d'enquête, mais de toute façon, des conclusions d'enquête, ça ne change pas les pratiques.
Ouais.
Ça vise à les changer éventuellement, ça vise à poser des recommandations, mais c'est toujours des recommandations, hein, les commissions d'enquête. On l'a vu avec la commission Charbonneau. Je serais curieuse de voir qu'est-ce qui se passe dans l'industrie de la construction actuellement.
Parce que ça
dans
coûte un million pour un feu de circulation
ben,
à Longueuil.
C'est ça, oui, c'est ça. Donc finalement, on est peut-être mieux d'y aller avec des tutelles en partant.
Dernière question, on parlait de Mark Carney qui est Teflon tout à l'heure. Pourquoi Geneviève Guilbeault est aussi Teflon dans ce dossier-là? Comment ça n'a pas sauté comme Éric Kerr?
Je ne sais pas. C'est un visage important de la Coalition Avenir Québec puis du gouvernement. À un moment donné, tu peux sacrifier certains joueurs ou certains...
Et sur le premier trio, Carr était sur le quatrième?
Peut-être. C'est peut-être l'avenir politique de Geneviève Guilbeault aussi qui est en jeu, l'avenir politique de la relève de la Coalition Avenir Québec. Je ne le sais pas, mais c'est sûr qu'à un moment donné, on ne peut pas sacrifier trop de monde. C'est comme un éboulement. Là, à un moment donné, c'est tout le parti qui peut crouler. En même temps, en voulant protéger certains joueurs, le parti peut aussi s'écrouler. Il y a tout un calcul qui est à faire là-dedans. Alors, peut-être que la tutelle serait la solution idéale avant qu'il soit trop tard.
Notre chroniqueuse politique, Jacinthe Eve Harel, tu le sais, toujours un plaisir. Merci de passer nous voir ce
matin.
Merci,
bonne journée. Profitez du soleil.
Eh hey, oui, t'es notre soleil en studio. Là.
Merci.
À bientôt.
Bye. Jusqu'à